buenos días.
Ireland.
Ireland, uh-huh.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. On peut mépriser l'Europe, en dire pique-pendre et dans le même temps profiter de ses largesses. Alors que le Premier ministre hongrois est accusé par la Commission et le Parlement européen de ne plus respecter les valeurs européennes, Viktor Orban investit à tour de bras l'argent de Bruxelles dans son village natal de Feldschut. Un collectif citoyen y a récemment défilé pour protester contre la corruption et le pillage des fonds européens organisés par le pouvoir. Florence Labruyère était dans le cortège.
Ils sont quelques centaines de citoyens venus de Budapest pour manifester à Feldschut, le village d'enfance de Viktor Orban. Gabor est venu avec sa fille Anna, âgée de 7 ans. Ce n'est pas à Bruxelles qu'il faut dire non, mais à la corruption, dit la petite fille. Ces citoyens veulent protester contre les sommes pharaoniques englouties par l'État dans le village. Le cortège passe d'abord devant le stade de football que Viktor Orban a fait bâtir, juste à côté de sa résidence secondaire. Akos Hatrazi, député du parti d'opposition, La Politique Autrement.
C'est le village natal du Premier ministre. On a construit des choses extravagantes ici. Un stade de foot de 10 milliards de forints, soit plus de 32 millions d'euros pour 1800 habitants. Ce village a reçu plus de fonds européens que n'importe quelle commune et on va bientôt construire ici le premier hôtel 6 étoiles du pays.
Puis le cortège arrive devant un grand domaine protégé par une grille imposante. Joseph Trendor, ingénieur informaticien, défile avec son chien.
Là, on va devant la maison de Lorenz Messaroche.
Qui est Lorenz Messaroche ?
C'est le caissier de Viktor Orban, son homme de paille. Il empoche des centaines de milliards de forints de fonds publics.
Ancien camarade de classe du Premier ministre, Lorenz Messaroche n'était qu'un modeste technicien chauffagiste. Mais depuis qu'Orban est au pouvoir, Messaroche est devenu maire de Feldschut. Et son entreprise rafle presque tous les marchés publics du pays. Construction de bâtiments publics, d'hôtels, installation du tout à l'égout. Il est aujourd'hui la 11e fortune de Hongrie.
Tous les fonds européens sont attribués à Lorenz Messaroche et à ses fidèles. Les appels d'offres sont rédigés pour lui, pour qu'il soit le seul à pouvoir gagner. Les autres sociétés ne déposent même plus de dossiers. Elles savent qu'elles n'ont aucune chance. C'est l'une des plus grandes mafias du monde ici.
Feldschut est bâti autour d'une grande rue jalonnée de maisons coquettes et de jardins pleins d'iris en fleurs. Imre Lakatos, un retraité qui a toujours vécu ici, regarde passer la foule d'un œil méfiant.
Ils disent qu'il n'y a pas de démocratie. Comment ça se fait qu'ils manifestent alors? C'est des cochons. Ils sont payés par George Soros pour protester. Ils sont contre la nation.
Dernière étape de la manifestation, la gare de Feldschut. Un petit train s'approche du quai. Avec sa locomotive rouge et ses deux wagons, on dirait un jouet. Trois passagers en descendent. Akos Hatrazi, député d'opposition.
Cette histoire du petit train, elle est emblématique de ce qui se passe dans le pays. Le Premier ministre a raconté qu'il y avait un vrai train ici dans son enfance et qu'il voulait le faire renaître. Alors il a fait construire ce petit train. Il roule sur 5 km. Il va de nulle part à nulle part et ça a coûté 800 millions de forints.
Le train a donc coûté l'équivalent de 2,5 millions d'euros. 80% de cette somme a été financée par l'Union européenne.
Il y a à peine une dizaine de passagers par jour, mais la Hongrie a menti à l'Union européenne en disant que le train transporterait 3000 personnes par jour.
Devant la gare, l'ambiance devient festive. Ils ont volé trop peu d'argent. On veut plus de corruption, scandent les membres du parti satirique hongrois, le chien à deux queues, qui participent à la manifestation. Gergely Kovács, président du parti, aime manier l'ironie.
Eh bien, on est venu pour profiter du soleil, il fait un temps magnifique. Et puis, il y a une manifestation ici contre la corruption. C'est ridicule, il n'y a pas de corruption en Hongrie. Donc on manifeste contre la manifestation, quoi. Et puis ce serait bien si tout le monde pouvait participer à la corruption. Il faut démocratiser la corruption en Hongrie.
Quelques responsables politiques font des discours. La manifestation s'achève. La buvette de la gare n'a jamais vu autant de monde. Les parents font la queue pour acheter des glaces aux enfants. Drapeau européen à la main, la petite Anna est ravie.
À Feldschut, le reportage de Florence Labruyère.
Il faut qu'on repose la question des relations avec les Allemands. Alors, ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, l'idée qu'on avait des choses à négocier avec eux. Mais si je suis un peu brut de déco, on n'a rien à négocier.
Non,
on
n'a rien.
Et peut-être qu'ils attendent.
Autre manne bruxelloise et pas des moindres, les fonds versés aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, le plus gros budget de l'Union avec plus de 408 milliards d'euros. Autant dire qu'au moment de renégocier ce budget, tous les 7 ans, les discussions sont serrées. C'est ce qu'on peut découvrir dans le documentaire de Nicolas Franck, qui entre 2012 et 2013 a talonné le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Au micro de Catherine Roland, Nicolas Franck explique d'abord que le ministre et son équipe, qui défendaient une agriculture à taille humaine, ont dû composer avec le contexte de l'époque.
Ils travaillent, c'est vrai, dans un cadre qui est très contraint, c'est-à-dire que l'aide est à l'hectare, c'est-à-dire que pour un hectare, on obtient en gros à la louche 300 euros par an pour un agriculteur. Et ça, c'est un peu le mécanisme de base sur lequel il est difficile de revenir. Enfin, c'est un mécanisme qui est très libéral, puisque ça veut dire que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Or, l'élevage, c'est pas du tout pareil que la culture de céréales. L'agriculture en Grèce, c'est pas du tout la même chose que l'agriculture en France ou dans le nord de l'Europe. Voilà, ils ont obtenu beaucoup de ce qu'ils voulaient, mais dans un cadre contraint qui est pas forcément le cadre dans lequel ils auraient rêvé travailler.
En fait, il faut savoir qu'il y a 15 000 exploitations qui disparaissent chaque année. Et donc, ce que tente de faire le ministre de l'Agriculture à l'époque, c'est négocier une aide plus élevée pour les premiers hectares exploités, hein,
voilà.
Pour favoriser l'agriculture à taille humaine. C'est un petit peu son projet.
Voilà, c'est-à-dire que en gros, l'aide est à l'hectare, et ce qu'il veut faire, c'est que pour les petites exploitations, cette aide à l'hectare soit un peu plus importante, et donc favoriser les petites surfaces. Et donc derrière ça, c'est de l'emploi, mais c'est pas seulement de l'emploi, c'est aussi des terroirs qui sont préservés, c'est aussi des paysages qui sont préservés, c'est-à-dire que quand on va à la montagne, par exemple, c'est souvent des relativement petites exploitations, d'élevage, et pourtant c'est eux qui façonnent complètement nos paysages. Ça peut être vrai dans d'autres régions.
Alors les négociations sont longues, des alliances se nouent du coup. Les négociations sont dures, notamment avec les Allemands qui ont, eux, une vision très industrielle de l'agriculture.
Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que eux, ils ont une vision très libérale de façon générale. Et donc, de réorienter des aides préférentiellement vers les petits ou vers certains secteurs, c'est quelque chose qui ne leur convient pas, parce que ça veut dire que les règles, entre guillemets, ne sont pas les mêmes pour tout le monde, qu'on va protéger un peu les plus faibles. Après, ce qui est compliqué avec l'Allemagne, c'est que ils ont une position de force qu'on connaît, et donc ils pèsent beaucoup dans les négociations, et là en particulier c'est l'Irlande qui est à la présidence du Conseil des ministres, et les Irlandais ont plus de mal à négocier avec une ministre allemande de l'agriculture qui est très dure que avec d'autres pays.
Il y a des négociations aussi avec les Anglais, avec les Polonais de l'autre qui seraient plutôt alliés avec les Français. Alors c'est vraiment effectivement la négociation pied à pied.
Oui, ben c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que le fait de faire un axe franco-polonais important sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui a été travaillé très en amont, ce qu'on voit un peu dans le film. Il y a aussi les Espagnols qu'ils ont vus. Alors évidemment, tout n'est pas montré dans le film. Depuis, la négociation durait 9 mois. Il y a eu des choix. Et ils négociaient évidemment avec les Irlandais, très en amont. Et après, il y a ce rush final, les 2 derniers jours de ces 9 mois qui se passent à Bruxelles jusqu'à tard le soir. Et là, c'est vraiment les derniers ajustements, mais pour lesquels chaque pays a du mal à lâcher du territoire.
Alors, on voit un Stéphane Le Foll assez sympathique, hein, qui mange des pizzas quand ça se termine tard le soir, qui tape dans l'épaule de ses collaborateurs. Il n'y avait pas cette crainte pour vous de le présenter sous un trop beau jour ?
Moi, j'ai fait mon boulot. Si le type est sympathique, bah, tant mieux pour lui. C'est quelqu'un qui connaît bien les dossiers agricoles, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Europe. L'idée, c'était pas de faire une agiographie. Le montage est vraiment honnête et rend vraiment compte de ce qui s'est passé sur ce sujet-là. En fait, c'est vrai que la France a réussi à obtenir pas mal de choses dans cette négociation. Après, est-ce que ça va vraiment sauver tous les agriculteurs qui disparaissent? Je pense qu'ils ont fait ce qui était faisable. Il va falloir voir dans les années qui viennent si vraiment ça sauve ou ça ralentit la disparition des petites exploitations.
Nicolas Franck, réalisateur de la négociation, documentaire à voir sur notre page Accent d'Europe sur RFI.fr. Les Danois possèdent le meilleur système de retraite au monde, que ce soit pour le niveau de vie ou de bien-être de ses retraités. Mais au Danemark, cette retraite se mérite car la vie active se poursuit très tard. L'âge légal de départ à la retraite va même passer progressivement de 65 à 67 ans d'ici à 2025. Pas facile dans certains corps de métier, notamment dans le bâtiment. Alors comment le système préserve les seniors exerçant un métier difficile? Élément de réponse avec ce reportage de Fabien Vallée.
Nils a 62 ans. Chaque jour, il porte des sacs de sable, pousse des brouettes remplies de béton ou comme aujourd'hui, manie le marteau-piqueur.
Beaucoup de gens veulent travailler plus. C'est bien pour eux, mais beaucoup d'autres ne sont pas capables d'exercer leur métier après 65 ans.
Anton travaille sur le même chantier, il est électricien. Il n'a que 32 ans, mais déjà des douleurs en bas du dos.
J'ai commencé à exercer mon métier à l'âge de 17 ans. Cela fait des années que je travaille dehors, avec le mauvais temps, le froid et des charges lourdes à porter. C'est un métier physiquement difficile, alors repousser l'âge légal de départ à la retraite me paraît injuste. Travailler pendant 50 ans en tant qu'électricien dans le bâtiment serait trop difficile. Je vais changer de voie un jour ou l'autre.
Anton envisage de troquer son casque de chantier pour un habit de formateur d'ici quelques années. C'est ce que font la plupart des ouvriers qui travaillent dans la construction après 20 ou 30 ans de dur labeur, selon Sisbook. Elle est consultante politique et économique à la Fédération danoise de l'industrie et de la construction.
D'après nos analyses et nos statistiques sur les retraites, dans le domaine de la construction, c'est monnaie courante de changer de voie professionnelle vers l'âge de 40 ans pour les ouvriers. Beaucoup de personnes travaillent dur dès leur plus jeune âge, fondent une famille et veulent gagner de l'argent. Ensuite, vers l'âge de 40 ou 50 ans, elles changent de métier pour travailler dans un autre secteur. Les patrons d'industrie recherchent ce genre de profil, car ces ouvriers sont de bons travailleurs. Ils sont bien formés, performants et ont un bon moral. Ils peuvent se reconvertir en travaillant dans une usine ou en devenant professeurs dans une école de construction, par exemple. Il y a plein d'autres métiers qu'ils peuvent exercer.
L'une des forces du système danois est sa politique de formation. Les quelques 3 millions de personnes actives peuvent suivre 2 semaines de formation par an. Près de 2 adultes sur 5 sont passés par le système de formation professionnelle l'année dernière. Le Danemark est le pays de l'Union européenne où la proportion d'adultes formés est la plus importante et l'un des pays qui consacre le plus d'argent public à sa politique de l'emploi, avec environ 2% de son PIB, produit intérieur brut. Bo Sandberg est économiste dans le secteur du bâtiment. Selon lui, les Danois doivent travailler plus longtemps avec certains aménagements pour ceux qui exercent des métiers difficiles.
Au Danemark, nous avons conclu un accord politique en 2006. Il prévoit que l'âge légal de départ à la retraite soit indexé sur l'espérance de vie. C'est nécessaire car nous vivons plus longtemps. Dans le domaine de la construction, beaucoup de processus sont automatisés aujourd'hui. Il est aussi important pour les gens d'apprendre tout au long de leur vie. Pour les seniors, ceux qui ne sont plus capables d'exercer des métiers difficiles, de chercher un autre travail ou de se former pour gravir les échelons.
L'autre solution serait qu'ils travaillent quelques heures par semaine, à mi-temps, selon l'économiste Bo Sandberg.
C'est important de ne pas perdre du jour au lendemain ses liens avec le marché du travail, car je pense que beaucoup de gens veulent rester en contact avec leurs collègues et ont besoin de se sentir utiles dans le monde du travail. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler à temps plein. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place des solutions flexibles pour avoir la possibilité de travailler quelques heures par semaine pour les seniors.
En moyenne, l'âge de départ effectif à la retraite est de 63 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes. Ce qui n'est pas encore assez pour le ministre de l'économie, il voudrait le repousser de 65 à 67 ans afin de répondre à une pénurie actuelle de main-d'œuvre. Et pas question pour l'instant de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. La politique migratoire s'est durcie sous la pression du Parti du Peuple danois, formation d'extrême droite, arrivée deuxième aux dernières élections législatives.
Se faire soigner dans les hôpitaux grecs est un vrai défi si l'on refuse de remettre une petite enveloppe au médecin pour voir son dossier traité plus vite. Sauf qu'aujourd'hui, les Grecs ne peuvent plus payer. Le gouvernement a donc décidé de s'attaquer à ces bakchiches en tout genre, Charlotte Stevenard.
Selon une étude publiée dans le journal européen de l'économie de la santé et réalisée fin 2011, 32% des personnes interrogées déclaraient avoir glissé une enveloppe à un médecin lors de leur admission dans un hôpital public grec. Moyennant un petit bakchiche donné au chirurgien, les patients grecs peuvent se faire opérer plus rapidement et éviter ainsi les mois d'attente bien connus dans les hôpitaux publics. Pour y remédier, il y a deux mois, le ministère de la Santé a donc créé un système de classement automatique des patients. Ils sont répartis en 5 catégories selon la gravité de leur cas, puis ils se voient attribuer automatiquement une place dans la liste d'attente pour les opérations et peuvent la consulter sur le site internet de chaque hôpital grâce à un code personnel. Cela évite donc les changements d'ordre de passage dans la liste décidés individuellement par les médecins. La seconde idée du ministère de la Santé a été inspirée par deux sites internet. Ethos Fakelaki, j'ai donné une enveloppe créée par une étudiante, Christina Tremonti, et un autre site du secrétariat général de lutte contre la corruption. Le ministère de la Santé veut donc créer sa propre plateforme électronique sur laquelle les patients pourront dénoncer de façon anonyme les médecins qui demandent ou acceptent des enveloppes. Et ils ont aussi pensé aux personnes âgées avec la création d'une ligne téléphonique anonyme. Mais ce n'est pas un sujet facile car le gouvernement veut éviter la création d'un climat de dénonciation. Le projet prend du temps. Le ministère doit encore trouver un moyen de repérer les dénonciations calomnieuses.
Ils ont la réputation de toujours relever la tête et de reprendre le cours de leur vie malgré les chocs encaissés. Une capacité de résilience dont sont fiers les habitants de Manchester, des Mancuniens qui, une semaine après l'attentat qui a fait 22 morts et 116 blessés, se souviennent d'un autre attentat qu'ils ont surmonté, celui du centre commercial d'Arundel, perpétré par l'IRA en 1996 et qui avait fait plus de 200 blessés. Marie Billon.
Don't look back in anger, chanté spontanément et en chœur par les Mancuniens réunis sur la place de St. Anne Square pour la minute de silence national jeudi. Cette chanson du groupe originaire de Manchester, Oasis, est devenue l'hymne officieux de la ville. Ne t'énerve pas contre le passé pourrait être la traduction de ce titre. Même si la police a noté une augmentation des agressions islamophobes dans la ville depuis l'attentat de la salle de concert, la plupart des Mancuniens ont tenu à se montrer dignes et surtout solidaires. Ce n'est pas un cliché pour eux. Ce besoin de se rassembler.
Manchester est le genre d'endroit où on ne se sent jamais seul. C'est un sentiment qu'on ressent tout de suite. Je l'ai senti en étant au milieu de la foule. Tout le monde se soutient, c'est dans notre ADN. Vous, c'est ce que vous voyez en ce moment, mais c'est tout le temps comme ça.
On est mancuniens, on continue quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on fait, nous, ici. On est résilients, on a cette particularité. Ça va aller.
Dès le lendemain de l'attentat, les citadins tenaient à retourner au travail. Certains n'ont pas pu aller jusqu'à leur bureau, car ils se trouvaient dans le cordon de sécurité, mais beaucoup sont restés là pour être ensemble. Il y a eu quelques mouvements de panique, mais la plupart du temps, la vie a continué aussi normalement que possible dans la ville. Le cordon de sécurité et les dépôts de fleurs étaient les seuls signes visibles de la blessure si récemment infligée. Alors, se rassembler était important pour les Mancuniens, pas comme un cliché ou un réflexe, précise-t-il, parce que c'est le moment où la vie habituelle est suspendue en hommage aux victimes, mais aussi pour accuser le coup et se donner du courage. Il serait même des centaines à vouloir inscrire la résistance mancunienne sur leur peau en se faisant tatouer une petite abeille, symbole de résilience.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 en universel.